subito.
Transistor. Transistor, l'émission.
Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Landau, programmateur de l'indispensable festival des ateliers de jazz de Mélégret qui aura lieu du 19 au 23 mai prochain. Mais avant de discuter plus longuement avec Jeff, on place à la démo à Momo pour débuter cette émission avec Johan qui aujourd'hui consacre, si je ne m'abuse, sa chronique à la nouvelle démo des Morveux.
Les Morvels. Je les surnomme comme ça, les Morveux.
Voilà, il me semblait bien.
Voilà, les Morvels, donc on peut-être un petit peu rappeler d'où ils viennent, qui ils sont. Les Morvels, si mes souvenirs sont bons, ils ont été formés fin 2004, début 2005, donc déjà presque 5 ans au compteur. Bon, on va pas dire qu'ils font partie des meubles, mais ils font un peu partie des piliers de la scène rock lavalloise. Et comme la plupart des groupes de cette scène-là, ils ont fait leurs premières armes chez Tess au début.
Alors Tess, pour rappeler, qui travaille au DMAC, ce qu'on appelle tous encore Créasic, c'est-à-dire un lieu d'accompagnement des groupes rock et plus si affinité aussi tous les styles musicaux finalement. Et qui a lancé effectivement beaucoup de musiciens sur Laval et le département.
Oui. Et les Morvels, ils sont quatre. Donc il y a les deux frères JC et Guillaume. JC à la guitare, Guillaume à la batterie. Il y a Adrien à la basse et Romain à la guitare et au chant. Donc moi, je me souviens de leur premier concert. Je les avais vus à l'époque, il y a 4-5 ans. Moi, à l'époque, ils étaient tout jeunes. Ils avaient entre 12 et 16 ans, quoi. Ils avaient 3-4 compos. Ils faisaient des reprises des Ramones ou des Sex Pistols. Donc il y avait déjà un esprit un peu punk, old school, puis un rock'n'roll un peu crassou. D'ailleurs, ils disent qu'ils font du punk and roll, voilà, mélange un peu des deux. Donc ils avaient déjà fait une démo 8 titres justement chez Tess il y a 2-3 ans, et donc là il y a une nouvelle démo toute fraîche qui a été enregistrée chez Amaury, d'Art of Hearing, du groupe Art of Hearing.
Voilà, donc Amaury Sauvé qui est musicien d'Art of Hearing, qui a monté un studio à la base qui était un local de répétition, puis tellement bien insonorisé, tellement bien conçu, que c'est en train de se transformer en petit lieu de d'enregistrement informel. Et faut dire qu'il est aussi bon ingé son que batteur. Parce que c'est vrai que le résultat est intéressant.
Il y a pas mal de groupes en ce moment qui travaillent chez lui. Il y a toujours un bon son, souvent. Donc là, il y a 4 titres. Hein, c'est du Morvels tout craché. Hein, donc un son bien tranchant, des riffs saignants, hyper efficaces. Bon, on sent qu'ils ont élargi leur palette depuis les débuts. Les compos sont plus riches, plus denses. Il y a vraiment pas de temps mort. Au niveau des influences, ils sont toujours plus ou moins à cheval entre le côté l'énergie brute des Berruriers Noirs et un peu la scène punk rock alternatif français, avec un chant clamé bien couillu. Puis il y a toujours un côté aussi au niveau des riffs un peu hard rock, un côté influence AC/DC, Motorhead.
Ouais.
Donc il y a 4 morceaux, il y a deux morceaux chantés en français, 2 en anglais. Donc il y a Sin City, on chante en anglais, en français, qui nous plonge dans la ville futuriste du crime et du vice, hein, donc inspiré de la BD et du film du même nom. Il y a le morceau Albert, donc c'est le portrait d'un personnage de beauf porté sur la bouteille et la carabine, avec une bonne dose de second degré, comme souvent chez les Marvels. Et il y a mon morceau préféré sur la démo, là, qu'on va écouter après, donc c'est Jack the Ripper, donc chanté en anglais. Je vais pas louer l'accent anglais de Romain
J'ai l'impression que parfois il joue un peu aussi justement de son accent.
Ouais, je pense
français,
qu'il le fait exprès sur certains passages.
Disons qu'en tout cas, il en fait un atout de ce mauvais accent, un atout humoristique.
Ouais. Bon, c'est le morceau le plus évident de la démo, je trouve, qu'avec des dérives non sorties, non sait où. C'est JC, le guitariste, souvent qui sort ces riffs-là. Donc là, il était en grande forme sur ce morceau-là, je trouve. Et donc c'est un morceau, a priori, j'ai pas traduit les paroles, mais Jack the Ripper, a priori, c'est un morceau sur l'ambiance de Jack l'Éventreur, voilà. Ok, on va écouter ça.
Jack the Ripper.
Back in Hong Kong, in 1888, in White Chapel, Prince Disaster, the bloody murderer, came right from the name of the bastard was Jack the Ripper. We'll be right back.
talking about place where being a whore wasn't the same. Yeah, no time half fun. Human time for talking about place where being a whore wasn't the same. Yeah, no time half fun. Human time for back in London in 1888. Chipper, maybe disaster. The bloody murderer came right from hell. The name of the bastard was Dragon Fur.
Jack the Ripper par les Morvels, donc sur la nouvelle démo du groupe. Un groupe d'ailleurs qu'on retrouvera avec un autre titre, un titre qui s'intitule Something Rose, sur la prochaine compilation Transistor, qui sortira avec le prochain numéro en juin prochain. Voilà. Ce soir, comme je le disais en introduction, on reçoit Jean-François Landau, donc le programmateur du festival de jazz, des ateliers de jazz de Mélade Humaine. Un festival que je vais te laisser le soin de présenter, Rémi.
Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-François.
Et bonsoir.
Alors bon, le festival a présenté finalement, est-il encore besoin de le faire puisqu'il est devenu un monument incontournable?
Un monument.
Ben oui, bien sûr. Maintenant, tout le monde, tout public fidèle un peu du jazz sait que à Mélade Humaine, le week-end de l'Ascension et même les jours un peu avant après, hein, donc cette année, ça sera du 19 au 23 mai, on peut écouter du jazz, et pas que, mais principalement du jazz. Et alors, moi, ce que j'aime bien, hein, c'est que la plupart de ces concerts sont gratuits. C'est quand même un bon moyen quand on est curieux quand on hésite d'aller découvrir de la bonne musique. Et puis, une des particularités de ce festival, c'est aussi qu'on associe des musiciens professionnels avec le travail d'ateliers de jazz, de jeunes amateurs. Et donc, en plus, je pense que c'est de là que le festival tire son nom, hein, Festival Atelier Jazz, la 12e édition.
Exactement. La base du festival, au départ, c'était ça. C'était de provoquer une rencontre des différents ateliers de jazz qui existaient dans les écoles de musique. Parce qu'avec les collègues, on se croisait de temps en temps, mais en fin de compte, les élèves ne se connaissaient pas plus que ça. Donc, c'était le moyen aux élèves de pouvoir se rencontrer aussi sur ce festival. Et puis, de leur offrir aussi une scène, de la technique aussi, puisqu'ils font leur balance. Ils ont souvent découvert aussi ce que c'était qu'une balance les premières fois où ils sont venus au festival. Donc ils jouent sur le même matériel que les professionnels, et puis ça leur permet aussi d'avoir un contact aussi avec les musiciens professionnels avant ou après la balance, ou avant ou après le concert, ou même des fois de buffer aussi avec eux de temps en temps. Ça, c'est déjà arrivé aussi, quoi.
Les professionnels étaient là dès le début, dès le premier festival,
dès la première année, ouais.
Programmation complète.
Voilà. Donc parce qu'au départ, ce festival, quand il a été lancé, c'était on pensait nous avoir une édition simplement, et puis c'est un peu grâce à Aldo Romano et Louis Clavis qu'on a poursuivi, parce que c'est eux qui nous ont encouragés à poursuivre une deuxième année, et puis on en est rendu à 12e édition maintenant.
Tu disais les collègues au début, quand tu évoquais le début du festival. En fait, quand tu dis les collègues, c'est-à-dire que toi-même, tu es prof aussi de musique et tu encadrais à l'époque un atelier de jazz.
Oui, voilà. Moi, je m'occupais de l'atelier de jazz sur Malais du Maine, en fin de compte. Moi, j'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années, là, sur Malais. Mm. Et puis après aussi, en même temps, un peu sur Bonchamp. Et maintenant, avec les classes de percussion qui se sont bien développées et tout, j'ai eu pas mal de boulot et avec le festival de plus en plus. Donc, je préfère laisser maintenant ce travail-là à un ancien élève d'ailleurs qui a récupéré le poste en mêlée sur Bonchamp.
Rémi parlait de la particularité du festival qui est sa gratuité. C'est souvent un débat, la gratuité sur un événement culturel. Faut-il faire gratuit, du pas gratuit? En tout cas, chez vous, le choix, il est clair. Il y a une soirée qui est payante, la soirée d'ouverture. Voilà. Toutes les autres soirées sont gratuites.
Il y en a une peut-être qui est pas chère, il y en a un deuxième.
Voilà, c'est le concert de clôture depuis quelques années, parce que après ça va défendre justement le fait de la gratuité n'a pas toujours été facile auprès des collectivités X ou Y.
Ouais.
Et donc, mais maintenant, je pense que c'est, on n'en parle plus, donc je pense que c'est acquis maintenant.
Ouais.
Et c'est vrai que financièrement après, ça devient pas toujours facile non plus de monter les budgets. Et c'est vrai que la première année où on a mis un deuxième concert payant, c'était 2 € pour la clôture, donc c'était plus symbolique qu'autre chose. Mm. Après, ça a été 3 €. Et c'est vrai que cette année, il y a eu 5 € l'année dernière, et cette année, on est monté à 8.
D'accord.
Parce que c'est un peu plus difficile aussi de monter le projet un peu cette année vu la conjoncture.
D'accord. Mais en tout cas, sur 5 soirées, c'est ça?
Oui.
Sur 5 soirées, il y en a 3 qui sont entièrement gratuites.
Voilà, sans se dire sur 9 concerts, il y en a 7 gratuits, quoi.
Et c'était quoi l'objectif avec cette gratuité-là, en fait?
Le but du jeu, c'était au départ, on parlait tout à l'heure des ateliers de jazz, c'était aussi de défendre un peu cette musique-là en milieu rural. C'est-à-dire que quand on a proposé ce projet-là au tout départ, on nous a dit ça marchera jamais, en milieu rural, à Malais du Maine et tout. On s'est battu, on en est là aujourd'hui, quoi. Mais c'était aussi de pouvoir présenter cette musique-là aux gens du territoire de Malais du Maine. Mm. Et puis petit à petit c'est le département de la Maine qui se déplace chez nous, et puis les départements limitrophes aussi, donc
effectivement
c'est un pari gagné, quoi.
Ce que j'ai peut-être omis de préciser dans cette courte présentation, c'est quand même que ce festival, il fait le plein très souvent, hein. Les choix de la programmation suscitent l'adhésion du public.
Oui.
et en plus il y a tout cet effort que vous avez développé de décentraliser dans les communes alentour, voilà. Du canton de...
Donc c'est vrai que Malais du Maine, c'est déjà pas très très gros,
mais on va décentraliser.
On va dans des communes comme Bannes cette année par exemple, il devait y avoir 120 habitants à Bannes. On va à Balai, on va à Rueil-et-Froidfond, mais c'est aussi le but du jeu. Enfin, c'est de, si le public vient pas à nous, c'est aussi de faire, enfin, pas l'effort, parce qu'on est très heureux d'aller dans ces villes-là aussi. C'est d'apporter la musique directement chez ces gens-là, parce que comme ça va se passer chez eux, c'est peut-être là où ils vont se déplacer, parce que ça se passe chez eux, et puis ils vont pouvoir peut-être venir découvrir un peu ce qui se passe dans cette musique. Quoi.
Mais quand tu parles d'affluence, c'est vrai que c'est impressionnant parfois de voir des concerts avec on est des fois sur des artistes un peu confidentiels ou en tout cas pas connus du grand public. Ouais. Et d'arriver à des soirées comme ça où on a 1000, ouais, c'est ça, c'est la capacité totale du lieu, c'est à peu près 1000.
Oui, quand tout est ouvert, c'est 1000 personnes.
Donc 1000 spectateurs sur des concerts parfois assez pointus.
Ouais.
Et c'est, je crois, on en discutait une fois, c'est parfois à l'étonnement même des musiciens qui se retrouvent rarement devant une assistance aussi importante.
C'est vrai que dans le public, c'est le melting pot, il y a toutes les générations qui sont présentées, hein, parce que il y a des papis, des mamies, des gens d'un certain âge, des jeunes et tout, et c'est Marc Ducret en sortant de concert quand il était venu en trio. Donc il était ici en descendant, parce que je les accueille toujours dans les loges après le concert, et m'a dit j'en reviens pas qu'il y a des papis, des mamies qui sont au premier rang, qui sont restés m'écouter jusqu'à minuit, quoi.
Est-ce que Marc Ducret, c'est pas toujours évident?
Oui, c'est pas très facile d'accès, hein, forcément. Et puis voilà, après on revenait tout à l'heure par rapport à des noms qui n'étaient pas forcément très connus. Je vois un groupe comme EST à l'époque, quand ils sont venus chez nous, c'était pas un groupe qui était très connu, et c'était bourré à craquer. Et puis eux, ils étaient par contre très étonnés de jouer devant un public qui était rentré gratuitement dans la salle. Quoi.
Ouais.
Donc ça surprend aussi beaucoup les musiciens. Et en général, ils acceptent assez facilement le projet, parce qu'on pourrait croire que certains, des fois, prennent ça mal, des fois, de dire que tiens, qu'ils vont jouer devant un public qui rentre gratuitement.
Ouais, ouais.
Et jusqu'ici, ça s'est toujours très bien passé. Ils encouragent même la démarche. Quoi. Ouais, c'est ça.
Alors le principe de cette émission, c'est d'inviter la personne justement qu'on invite, qu'on reçoit, à faire une petite sélection de morceaux qui l'ont marqué, qui sont un peu ces morceaux fétiches. Alors tu es venu dans ta petite sacoche avec quelques disques.
Voilà.
On va écouter un premier morceau. Qu'est-ce que tu nous réserves là pour cette première écoute?
Alors je pense que c'est le portal Michel Portal.
Ah, le question piège. Ouais, oui,
parce
c'est
que
ça.
Je sais pendant quel jour ils ont été mis pour ça. Donc un morceau qui s'appelle Mansland. Voilà. C'est un duo. Et je suis assez content parce que c'est aussi le concert d'ouverture de cette année.
Oui.
Et en fin de compte, ce morceau, c'était un projet universitaire que j'avais mis en place. Je voulais travailler sur ce morceau-là, moi.
D'accord, c'est une histoire personnelle. Donc,
ouais,
aussi.
C'est un peu une histoire personnelle. Okay. Ouais, voilà.
Bon, on l'écoute et on reparle tout de suite. Men's Lens par un groupe où on retrouve bien sûr Michel Portal, mais aussi Mino Sinelou et Michel Portal qui seront en duo, donc tu le disais tout à l'heure Jeff, au festival, à la soirée d'ouverture d'ailleurs du festival le 19 mai.
19 mai, c'est ça, oui.
Donc voilà, c'est Michel Portal, c'est qui pour toi? C'est un musicien qui a compté dans ton parcours d'auditeur, de fan de jazz?
Oui, oui, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'avais commencé justement à faire un travail universitaire un peu sur ce personnage.
D'accord.
Et plus précisément sur ce morceau. Donc à l'époque, je n'ai pas pu rencontrer ces deux musiciens pour pouvoir discuter le bout de gras sur ce qui s'était passé sur cette plage de disques. Voilà, après il s'est passé autre chose et que je suis rentré dans l'enseignement, etc., etc. Donc j'ai eu moins de temps pour faire ce que j'avais à faire sur ce travail. Et donc je pense que quand je serai à la retraite, je finirai mon mémoire dans ces cas-là, à ce moment-là.
D'accord, donc t'as déjà du boulot pour la retraite, voilà, c'est bien ça.
C'est prévu pour la retraite, ouais.
Ok. D'accord.
Voilà. Mais bon, c'est vrai, je suis super content de pouvoir les faire venir cette année.
Michel Portal, c'est la première fois qu'il vient à Mélé?
Ce sera la seconde fois qu'il va venir à Mélé.
D'accord.
Il est venu en 2002 avec Louis Clavis, Chevillon et puis Daniel Humer.
D'accord.
Alors bon, Michel Portal, donc c'est pour la soirée d'ouverture.
Oui.
Mais il y a plein d'autres concerts. On va peut-être parler un petit peu de la programmation, même si c'est toujours difficile de mettre en avant tel ou tel concert. On peut rappeler, peut-être en vrac, pour les gens qui connaissent, qu'on pourra entendre Dédé Secarelli, Ludovic Fabre, ça c'est Jazz Manouche,
oui.
Johan Guillard, donc le local de l'étape qui fera,
voilà,
un groupe plus groove. Et puis alors, par exemple, une création avec la rencontre de Carole Aymar et de Médéric Collignon. Le même soir, on va peut-être détailler après, hein. Je liste un petit peu.
Ne pas oublier aussi des locaux, c'est l'Incognita Trio.
Ouais.
Voilà, qui feront la première partie justement de Michel Portal et de Mino Sinelou.
D'accord. Et donc Fred Fritz, Fritz, je sais pas comment on dit,
Fred
à l'anglaise,
Fritz,
ça c'est toujours notre accent anglais, on va en parler,
voilà.
Avec Kamel Zekri, Sylvain Boeuf Trio, peut-être plus jazz,
oui.
Et puis alors il y a Didier Skiban, pianiste bretonnisant,
voilà, exactement.
Alors Blues Brothers, comment on les appelle, Blues Brothers Band,
ouais, c'est les Eight Killers,
Eight,
ouais.
Killers, voilà, ouais. Donc qui vont pour fermer le en clôture du festival. Donc là-dedans, on voit bien qu'il y a toujours cette diversité. Ça doit être dur de faire une programmation. Vous veillez à ça à chaque fois?
Ah bah oui, c'est aussi le but du jeu, hein, c'est de proposer aux gens des choses bien différentes à chaque concert. Parce que ce serait qu'en milieu rural, on pourrait pas faire. Enfin, je pense que ça serait difficile d'avoir qu'un festival de musique improvisée, par exemple. Ou alors, faut avoir un sacré passé ou des choses comme ça. Donc, et puis même moi, même dans ce que j'écoute, j'aime bien être assez diversifié dans les différents styles de jazz que je peux écouter. Donc j'aime bien proposer ça aussi au public. Donc ça peut très bien être un public qui va à un concert un soir, qui va pas forcément accrocher, il va venir le lendemain, il va adorer. Et puis ça permet aussi, souvent les gens me disent en sortant du concert, ils me disent, ah bah tiens, c'est aussi ça le jazz, parce qu'ils pensaient pas des fois que tel ou tel style. C'est vrai qu'il y a un panel tellement important de styles dans cette musique, avec tous les métissages qui existent et tout, dans cette musique là tout le monde peut s'y retrouver, je pense, dans la programmation, ouais.
D'accord. Alors, on a évoqué donc rapidement peut-être cette création. Peut-être qu'on peut y revenir un peu plus longuement, car c'est une particularité. Nous dire un petit mot
avec Kamel,
cette soirée-là avec Carole Aymar, voilà. Médéric Collignon.
Bah, ça commencera même dans l'après-midi, parce que Johan Guillard qui jouera dans l'après-midi avec le Marabout Orchestra, c'est une création aussi, puisque c'est tout neuf. Je vais venir avec un groupe qui s'appelait le Gros Tube.
Oui.
Et que voilà, ça n'existe plus, etc., etc. Il y a eu quelques petites incompatibilités d'humeur entre musiciens. Et puis, bah, j'ai déjà joué dans ces cas-là. Je dis, si t'as un projet que t'as envie de monter, moi, je te donne une enveloppe et puis tu pars avec les musiciens que t'as envie, tu montes le projet que t'as envie. Donc, ça sera la première fois qu'ils se produiront devant du public ce jour-là. Et après, pour la soirée donc du 21, c'est vrai que Carole Aymar est déjà venue deux fois sur notre festival, une fois en trio, une fois en solo. Et puis Médéric Collignon est venu aussi deux fois sur la même année, en quartet, et une fois avec un solo aussi. Et en entendant les deux solos, voilà, moi, j'ai eu l'idée de leur proposer de se rencontrer. Donc, je les ai appelés chacun à leur tour. Et puis, je leur ai proposé de faire une rencontre. Donc, ils ont jamais joué ensemble. Ils connaissent bien le travail de l'un et de l'autre.
Il y a eu des hésitations, c'était oui tout de suite
Non, ça a été oui tout de suite pour les deux. Ah. Ouais, ils ont foncé vraiment sur. Très intéressés et tout par la chose, quoi. Donc, après, je ne sais pas ce qui se passera le 21 à partir de 20h30 sur scène, mais j'ai quelques petites idées. Mais...
Ils se rencontrent quand même avant pour travailler ou c'est vraiment d'impro total et ils vont monter sur scène sans avoir jamais travaillé ensemble?
Je pense que ça va être beaucoup d'impro total.
Ah ouais, ouais, donc là, c'est l'aventure.
Ouais, c'est vraiment l'aventure. Bon, je pense qu'il y aura des discussions, il y a des discussions en amont. Hein.
D'accord.
Mais je pense que le but du jeu pour eux, c'est vraiment de tenter cette expérience-là aussi, de faire la rencontre. Ouais.
C'est vraiment deux artistes exceptionnels. On n'a pas présenté exactement ce qu'ils faisaient. Carole Aymar, elle se décrit d'ailleurs pas comme une chanteuse, mais comme une vocaliste.
Vocaliste, ouais,
c'est quelqu'un qui utilise sa voix comme un instrument et c'est assez impressionnant ce qu'elle arrive à sortir de son organe, de ses cordes vocales.
Voilà, ouais.
C'est un vrai phénomène, quoi.
Oui, c'est ça. Puis après, elle utilise plein de variantes au niveau de la voix. Elle peut très bien utiliser le yodel qui est utilisé chez la musique des Pygmées. Musique médiévale, musique vietnamienne et tout ça, donc les chants vietnamiens. Donc il y a un melting pot de tout ça et de standards de jazz aussi qu'elle est capable d'assurer sans aucun problème. Donc c'est vrai qu'il y a une tessiture monstrueuse et puis une qualité de voix qui est en solo, c'est vraiment impressionnant hein, parce qu'au niveau justesse et tout, quand on est à poil entre guillemets sur scène avec un micro et que la voix, il faut assurer le coup quand même.
Ouais, c'est clair. Ouais. Et Médéric Collignon, c'est aussi un phénomène là de la trompette, mais c'est aussi un chanteur, je crois.
Ouais, c'est pas de la trompette, hein, c'est son cornet de poche, comme il l'appelle. Petite trompette. Donc voilà, il est aussi vocaliste, il a un prix de chant aussi, et puis il vient aussi quelquefois avec quelques machines. Et c'est un sacré phénomène sur scène et en dehors de scène aussi, lui.
Ouais, deux phénomènes ce soir-là.
Voilà, à l'opposé, moi j'ai juste une petite question. Hein, on a les Hate Killers qui vont faire donc le best-of des Blues Brothers. Donc là, on va dire rien à voir au niveau musical, ça va être explosif. Oui. Mais alors par contre, qu'on se méprenne pas, il n'y a pas les Blues Brothers dedans.
Ah non, il n'y a pas les Blues Brothers dedans.
C'est qui, ils viennent d'où un petit peu?
Ils y ressemblent un peu, c'est une troupe française en fin de compte, hein, qui tourne pas mal. Il y a deux troupes, enfin je crois qu'il y a même une autre troupe qui est française qui a mis un projet comme ça en route il y a quelques temps. Et sinon, il y a une autre troupe américaine donc, qui assure ce projet-là. Mais eux, ils tournent un peu partout dans le monde, hein, parce qu'ils ont fait le Mexique, le Canada, une partie des États-Unis, l'Europe. Ils ont eu la chance d'avoir plusieurs trophées pour les meilleurs concerts live, une fois à Scala à Milan et une fois à Londres aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement le nom du trophée. Donc, c'est un truc qui tourne.
Je ne le dirai pas.
Donc voilà, donc c'est quelque chose c'est un projet qui tourne, qui tourne d'enfer, quoi. Après,
donc en fait, il va vous falloir remplir, vous allez remplir le stade, là, ça va pas tenir, là.
Quand j'ai entendu le truc la première fois, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, parce que je suis allé voir sur le net et tout ça, et puis j'ai quand même appelé le producteur pour savoir qu'il m'envoie du son et de la musique, parce que sur le net, c'était quelques petits extraits, et après, le but du jeu dans le festival, c'est que. C'est la musique de jazz, elle peut être mise sous plusieurs formes, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours du chorus dans ce qui va se passer, des improvisations. Et en fin de compte, sur ce que j'ai pu voir et entendre dans ce qu'il m'a laissé comme CD ou DVD, il y a beaucoup aussi d'improvisations scéniques et puis instrumentales et chantées aussi. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre du festival. Et en plus, pour une clôture, c'est très festif et tout, donc c'est bien de finir aussi le festival avec quelque chose d'assez festif dans ce style-là, quoi.
Merci. Alors, on continue avec le jeu de ce soir, avec le deuxième morceau qu'on va faire écouter aux auditeurs. Donc, tu parlais d'improvisation. Alors là, le maître, hein, Coltrane, My Favorite Things.
John Coltrane live à Antibes en 1965 avec son fameux groupe. On retrouvait notamment Michael Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie, Jimmy Garrison à la basse, c'est ça, je me trompe pas?
Ouais, c'est ça. Quartet de la mort, c'est
voilà,
ça.
Sans doute un des plus beaux groupes de l'histoire du jazz. Coltrane, c'est effectivement un des très grands noms du jazz. Beaucoup de personnes ont découvert d'ailleurs le jazz par Miles Davis ou par Coltrane. Est-ce que ça a été ton cas, toi? Est-ce que c'est par eux, par ces musiciens, ces grands musiciens-là que t'es rentré dans le jazz ou quelle était ton entrée en fait dans cette musique-là?
Mon entrée dans le jazz, c'est dans, je pense, un extrait qu'on va entendre après.
D'accord.
Et c'est plutôt ces musiciens. Début, je suis plus rentré au tout départ dans le jazz, mais avec les musiciens français en fin de compte.
D'accord.
Plus le jazz européen. Et puis je me dis, tiens, faut peut-être voir un peu ce qui s'est passé avant aussi. Et puis je suis allé voir un peu ce qui s'est passé un peu au niveau de l'autre côté de l'Atlantique après, quoi.
Quand tu dis le musicien français, ça correspond à quel musicien
À l'époque, moi j'écoutais René Ertrager, Pierre Michelot, Daniel Humer, Jenny Clark, Portal, François Janot, enfin toute cette clique-là, Henri Texier, Sclavis, Romano.
C'est intéressant parfois justement de savoir comment on découvre une musique. C'est par quel biais? Par le biais d'un grand frère, d'un oncle, d'un ami
Ça s'est fait grâce à l'école de musique de Laval.
Ah d'accord.
J'ai débarqué un jour en tant qu'élève, et puis il y a eu un stage symphonique et d'harmonie qui a été organisé en Allemagne. Donc moi je connaissais pas trop grand monde parce que j'ai débarqué de Melle,
petit provincial, voilà, qui arrive à la capitale, Laval.
Et pendant ce stage j'ai appris à connaître beaucoup de gens. Et puis il y a déjà des gens justement que j'ai connus là-bas qui faisaient partie de l'atelier de jazz de Paul Fort.
D'accord.
Et puis après des journées de boulot en orchestre symphonique ou orchestre d'harmonie, le soir il y avait des bœufs d'organiser. Et puis c'est comme ça qu'on m'a dit, tiens, bah, toi qui es batteur, si tu veux te mettre à la batterie, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers ting 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 pour la première fois de ma vie en gros. Et puis voilà, et puis des fois il y avait même l'ancien directeur de l'école de musique de Laval, François-Marie Texier, qui sortait le sax. Alors là, on était heureux comme des gosses, on était des gosses d'ailleurs à l'époque. Le directeur qui sortait le sax et qui jouait avec nous, c'était fabuleux quoi, c'est vraiment super.
Avant le jazz, il n'y avait rien d'autre? Avant le jazz, il n'y avait rien comme dans tes goûts musicaux? Ça a été directement.
Parce que le jazz, moi, je me suis intéressé à cette musique-là assez tôt. Je devais avoir, je devais être en quatrième ou troisième.
Ouais.
Donc avant, j'écoutais un peu avant, comme tout le monde, un peu de ce qui se passait à la radio, des choses comme ça. Et puis au moment où j'ai découvert cette musique-là, je me suis vraiment accroché beaucoup. J'ai même écouté presque que ça, quoi. Et un peu de musique classique, parce que dans mes études, ça faisait partie de mon cursus aussi. Mais c'est vrai que le jazz et la musique classique, c'est vraiment ce que j'ai écouté le plus quand j'étais ado et un peu plus grand cadeau d'ailleurs. Ouais. Voilà.
On parlait tout à l'heure de l'éclectisme du festival qui se reflète aussi, j'ai l'impression, dans tes goûts musicaux. Mmh. C'est le jazz, effectivement, on en parle au singulier, mais c'est une musique qui se conjugue plutôt au pluriel.
Ah bah ouais, il y a plein de métissages qui ont été faits dans cette musique-là depuis très longtemps. Et puis même moi, je suis assez curieux. J'ai écouté beaucoup de musique classique, j'en écoute toujours. Après du pop rock et tout ça, j'en écoute un peu aussi. J'ai écouté aussi pas mal de musique extra-européenne pendant pas mal de temps aussi. Je me suis vraiment penché sur cette musique. J'en écoute un peu moins maintenant, mais je pense que ça va revenir.
Extra-européenne?
Ouais.
C'est-à-dire?
C'est plus tout ce qui est musique africaine, musique des pygmées, musique vietnamienne, musique balinaise, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai écoutées beaucoup, quoi.
Est-ce que certains appellent des musiques du monde?
Ouais, c'est ça, ouais, musique du monde. J'ai toujours appelé ça musique extra-européenne, ouais.
Ah, c'est de la musique extra, c'est sûr.
Ouais, extra. Donc, ouais.
We'll be right back.
Et oui, une fois que c'est parti, c'est dur de quitter nos amis donc qui n'étaient pas du tout extra-européens pour le coup. Joachim Kühn, Daniel Humer, Jean-François Jenny Clark, le morceau s'appelle Changement et c'était un live au Théâtre de la Ville enregistré en 1989. Alors, question 100 euros, pourquoi ce choix de disque ?
C'est une question pour gagner une place, peut-être. C'est pas ça, non.
Ah,
d'ailleurs,
bonne perche.
La perche est lancée, je la saisis au vol. Effectivement, ce soir, nous avons deux places à faire gagner pour le festival de jazz, pour la soirée d'ouverture, donc qui aura lieu, je vous rappelle, le 19 mai, sur laquelle on retrouvera, au cours de laquelle on retrouvera donc Incognita Trio et Michel Portal et Mino Sinelou. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour gagner deux places pour le festival de jazz, vous appelez au 02 43 07 36 13, je répète, 02 43 07 36 13 et vous appelez dès maintenant jusqu'à la fin de l'émission, on vous prend et au standard et on vous inscrit sur la liste.
Bien, alors revenons à nos moutons, aux choses également sérieuse, ce bon morceau, ce bon disque, pourquoi de l'avoir proposé à la découverte des auditeurs ?
À la découverte des auditeurs, parce que c'est un des premiers albums où j'ai entendu ce trio fabuleux, avec Daniel Humer, Joachim Kühn et puis Jean-François Jenny Clark. Donc moi, ça a bercé une partie de ma jeunesse, ce trio. Je disais tout à l'heure, des fois on faisait 1000 km avec les copains à l'autre bout de la France pour aller voir ce trio dès qu'on voyait qu'ils jouaient quelque part. Donc on les a suivis vraiment à la trace à une certaine époque.
Et à chaque fois c'était différent.
Hein, c'était différent. Il y avait des invités parce que des fois on a vu Portal aussi avec eux en même temps, ou Yves Robert, ou Renaud Garcia-Fons aussi, ou des choses comme ça. Donc Marc Ducret aussi qui des fois qui était invité avec eux. Donc c'était différent à chaque fois et toujours génial quoi.
D'accord. Daniel Humer en particulier, c'est aussi un batteur qui a marqué l'histoire du festival. Il est venu plusieurs fois.
Il est venu trois fois sur le festival. Une fois en 99 avec Richard Galliano et Rémi Vignolo. Il est venu en 2002 avec Michel Portal, Luis Clavis et Bruno Chevillon. Et puis il est venu en 2003 où d'ailleurs il a parrainé le festival cette année-là. Je l'avais appelé pour savoir s'il était d'accord de parrainer le festival. Comme il est également peintre, il avait aussi fait l'affiche du festival cette année-là. Il nous avait fait une peinture qu'il nous a offert.
Et ça consistait en quoi le parrainage ?
En fin de compte, c'était de soutenir le festival, de nous faire la peinture et puis la journée, le concert de clôture, c'est lui qui s'était occupé de la programmation en fin de compte de ce concert. Parce qu'il avait proposé son groupe le Baby Boom avec Manu Kodja, Mathieu Donarier, Christophe Mognot et puis Sébastien Boisseau à la contrebasse. D'accord. Et en première partie, il avait invité des jeunes musiciens parisiens qu'il avait dû rencontrer au conservatoire.
Et alors, qu'est-ce que tu lui trouves à Daniel Humer ?
Qu'est-ce que je lui trouve ? Moi, je suis percussionniste, donc forcément, je suis attiré par les batteurs. Des fois par les batteuses aussi. Mais... Surtout... donc, par les batteurs. Donc, c'est vrai qu'il est venu plusieurs fois sur le festival, on a aussi un peu sympathisé. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir aller le voir parce qu'il donnait des cours au conservatoire à Paris. Donc un jour je lui ai demandé si je pouvais assister à ses cours et que je pouvais assister à ses cours en tant qu'auditeur libre. Et c'est vrai que c'était pas simplement des cours de musique, c'était une leçon de vie quoi. Donc il n'y avait pas simplement que de la musique dans ses cours. Quoi.
Un sacré personnage. Ouais. Alors les trois morceaux qu'on vient d'écouter et écourter également, ouais. Malheureusement, sont des disques enregistrés en concert, en ouais. Live. Pourquoi c'est une coïncidence ou...
Oui, on peut dire ça comme ça. Après, forcément, cette musique-là, elle est jamais autant géniale que quand c'est fait en concert. Moi, je suis persuadé de ça. Même quand je parle de quelqu'un comme Portal que j'adore. Mais je trouve que quand c'est en live, c'est beaucoup mieux qu'en studio, quoi.
D'accord. Après, ouais, donc, le jazz, il y a quelle différence il y a entre justement ce live et ce studio ? C'est vrai que c'est une musique improvisée qui est vraiment dans le moment.
Ouais.
Bon, malgré tout, un disque, là, la plupart du temps, c'est fait en studio.
Ouais.
Est-ce que ça a quand même une pertinence pour le jazz ?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que les musiciens, quand t'as un public devant toi, je pense que tu dois pouvoir donner plus que quand t'es. Que quand t'es en studio, je suppose. Enfin, moi, je le ressens un peu comme ça.
D'accord.
Après, j'ai pas de vérité vraie là-dessus.
Ouais,
chacun réagit comme.
Oui, ce qui est sûr, c'est que pendant le festival, c'est du live.
C'est du live.
Yeah, vous êtes sur l'autre radio et vous écoutez donc l'émission Transistor. On vient d'écouter un morceau de Deep Purple sur l'album Made in Japan. C'est le morceau Highway Star que nous a choisi Jeff. Donc tu nous parlais de ton éclectisme, l'éclectisme de tes goûts. En voilà une preuve avec ce morceau-là. Tu n'écoutes pas que du jazz.
Je n'écoute pas que du jazz. Et c'est vrai que j'ai découvert cette musique, hein, comme je disais tout à l'heure en venant. Là, j'ai découvert cette musique-là, je vais avoir 19-20 ans. Hein.
Ouais, c'était pas à l'adolescence qu'on aurait pu imaginer.
Voilà, ouais, je me suis mis un peu tard sur ce coup-là.
Ok. En tout cas, on te remercie d'être venu jusqu'à nous et puis pour le temps que t'as consacré à l'émission. Et puis, on se retrouvera le 19 mai pour l'ouverture du festival et pour 5 jours de concerts à Mêlée d'Humaine. Donc, merci beaucoup.
D'accord, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à l'émission. Merci bien.
Et c'est vrai qu'en mai, il y aura beaucoup de concerts, notamment ceux de Mêlée d'Humaine. Et puis plein d'autres, c'est la transition est toute trouvée pour aborder la rubrique qui suit, donc qui est la rubrique de l'agenda, qui est habituellement présentée par la troublante et charmante Mademoiselle M, qui malheureusement ce soir nous fait faux bond, et c'est donc un autre agendiste qui prend le relais.
Ouais, les auditeurs vont être déçus, je crois. Voilà, une paire d'auditeurs là.
Non. Je crois que t'allais dire une paire de noms. Donc bref, c'est donc Yoann qui enchaîne sur l'agenda. Mon cher Yoann, je te laisse la parole.
Oui, donc j'ai la lourde tâche de succéder à Céline.
Ah non,
oula.
Ah,
oh, oh. Un des secrets de l'émission qui part en fumée.
Mademoiselle M, donc.
Mademoiselle M. Donc, on va commencer par une date à pas louper. Donc, le jeudi 7 mai au 6x4 à Laval. Donc, c'est un projet un peu atypique. C'est la réunion, en fait, d'un trio rock avec Serge Tessoguet de Noir Désir, guitariste de Noir Désir. Cyril Bilbo de ex-groupe Sloy et Marc Sans qui était le guitariste de Yann Tiersen. Donc ces trois-là, c'est le trio Zone Libre. Et en fait, ils ont fait un projet avec le rappeur de La Rumeur, Amé, et la rappeuse Kazé. Donc, ouais. Donc c'est un projet assez récent, mais j'ai croisé tout à l'heure Arnaud du 6x4 qui les a vus récemment. Il m'a dit qu'il a vraiment pris une grosse claque et qu'il ne fait absolument pas louper ce concert. Donc ce sera le jeudi 7 mai, c'est 20h30, voilà, 6x4. Le 8 mai, il y aura aussi un concert gratuit cette fois là au Queen's Bar, donc à Laval, 21h30 au Queen's Bar. Donc c'est le Parpin, c'est l'ex contrebassiste des Fils Canouches avec Arnaud qui était dans le groupe Dadja qui vont faire des reprises chansons françaises et pop folk.
Le vendredi 15 mai à Évron, ça sera le festival C'est quoi ce cirque, un festival qui est organisé déjà depuis plusieurs années par le Svet des Couévrons, et donc qui travaille autour de la thématique du cirque, vous l'aurez deviné. On retrouvera sur ce festival Mango Gadzi, qui est un groupe qui mélange à la fois musique rock et zigane. Et puis il y a toutes sortes aussi de choses autour du théâtre. Il y a notamment une parade qui sera assez exceptionnelle a priori d'après ce que j'ai pu en entendre parler. Ils ont confié à un artiste, un plasticien, la construction d'un énorme éléphant géant qui va parader défiler dans les rues d'Évron. Donc voilà, ça sera aussi un moment sans doute assez particulier, assez chouette à voir. Et voilà, donc c'est rendez-vous le 15 mai à Évron.
Et oui, donc le même jour, un duo dont on avait parlé une émission du mois de mars,
effectivement,
je crois, Mélocotone, ouais. Donc dont on a un éminent représentant ici.
Ah, fallait pas le dire.
Non, on ne saura pas qui c'est.
Copinage.
Chansons françaises, blues, bossa nova, slam, c'est un peu le mélange de tout ça. Donc ça n'a pas loupé, hein, c'est gratuit, c'est au Melting Pot à Laval, le 15 mai, 21h.
Le lendemain, à Saint-Fort, en tout cas le départ se fait à Saint-Fort, c'est un projet un peu particulier, assez innovant, en fait, ce qui s'appelle le Music Hall. C'est simplement, peut-être qu'on dit plutôt le Busic Hall, j'ai un peu de mal, pardon. En fait, c'est un bus musical qui est aménagé comme une scène et qui va se déplacer sur toute la communauté de communes de Château-Gontier avec plusieurs concerts. On retrouvera notamment un groupe qui s'appelle le Projet Plancton qui mélange pop et free jazz et c'est gratuit à partir de 21h le 16 mai.
Donc le lendemain, le 17 mai à Château-Gontier, donc sur la promenade de la Résistance, donc au niveau du kiosque, donc c'est dans le cadre des Beaux Dimanches du kiosque, un concert chanson française de Lise Chéral, qui n'est autre que la sœur de Jeanne Chéral. Donc ce sera à 17h30 et c'est gratuit.
Le même jour à Laval, dans un cadre beaucoup plus intimiste, puisque ce sera dans un jardin, tout simplement dans le jardin d'un particulier, un concert électro. Avec Sogar, un Allemand, une électro assez intimiste, vraiment très 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 ambiante, très agréable. J'ai pu entendre quelques extraits. Donc c'est le 17 mai pardon, à 19h, c'est 5€ et c'est 43 rue de Beauvais à Laval. Voilà.
Le 21 mai à Laval, Babel Slam Trio, donc chanson slam, donc c'est la réunion de Babel, donc alias Sébastien Rousselet, avec Jean-Pierre Pavy et Joël Flambard. Donc ce sera au théâtre, 20h30, le jeudi 21 mai à Laval. Le lendemain, donc la grosse date, hein, faut réserver ses places assez vite, je pense que ça va être vite complet. Concert-événement d'Assassin, donc le groupe hip-hop français légendaire, underground alternatif créé dans les années 80.
Que d'épithète.
Et donc ils seront 6x4 le vendredi 22 mai avec en ouverture le DJ Rencott qui est au platine dans le trio L'Entourloupe. Et 20h30 au 6x4 le vendredi 22 mai. Le lendemain, ça enchaîne au 6x4 toujours. Monsieur Roux, donc bien connu des spectateurs mayennais qui étaient déjà venus au 6x4 il y a quelques années. Donc chanson un peu festive hein, avec un second degré. Et en première partie, soul, chanson folk, 20h30 aussi par 4 le 23 mai. Le 29 mai au Lapindrome, donc là c'est le Lapindrome Finifort, donc il y a une soirée par mois, donc ce bar associatif qui est situé en dessous le théâtre dans la crypte, anciennement la crypte. Donc là ce sera la clôture de la saison avec un concert de Bashka. Donc c'est gratuit, et ben, c'est pour les gens qui ne sont jamais venus au Lapindrome, l'abonnement est à 1€ seulement.
Voilà, et puis on termine avec le 31 mai à Ernée, à l'espace Louis Derbré, les pique-niques culturels qui sont organisés par l'association Au Foin de la Rue. C'est une après-midi très conviviale, très familiale, où vous venez pique-niquer et puis assister à des spectacles. On retrouvera notamment le comique Ronan Tablantec. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment un truc à pas louper aussi. Il était déjà passé aux Ondines il y a quelques temps. Et ceux qui avaient pu voir le spectacle on avait dit beaucoup de bien. Donc voilà, c'est gratuit, c'est de 12h à 18h le 31 mai à Ernée, à l'espace Louis Derbré.
Et donc là, on va écouter Zone Libre VS Kazéamé, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui passeront au 6x4 le jeudi 7 mai. On écoute.
Un certain temps, je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, parce que continuer comme ça, j'étais un peu fragile, je sentais qu'il fallait me renforcer, apprendre, et puis aller dans la gueule du loup, vraiment, dans la capitale de l'impérialisme. C'est là que je devais venir, c'est là que l'épreuve décisive devait se passer.
Je suis né juste après l'extinction d'un feu, dont je garde des braises fumantes au creux. De ma gorge, de ma langue, de mes yeux, à ce pays de sable, je n'ai jamais dit adieu. On m'a porté à bout de bras jusqu'ici, dans la poussière d'un septembre après-midi, dans des langes dépliées par le bruit, dans l'espoir d'entrevoir un peu la vie. Ça ne s'oublie pas un être humain qui n'a plus rien et qui s'arrache pour mettre à table un bout de pain. C'est comme la peur du noir dans une chambre sans fenêtre. C'est comme les mots rares d'un analphabète. Et puis j'ai grandi en apprenant des noms de géants. Pharaon, Fanon, Kateb, Yassine. Comme le trésor de guerre à la fin du film. D'un bout à l'autre de ma trajectoire, de l'Algérie s'évade et revient me voir. Tout comme je verrai jusqu'à l'ultime soir le pas de mon père et ses mains noires.
Les mains noires, ce sont celles de ma mère, de beaucoup de mes héros, de certains de mes alliés. Quand je quitte ma terre, celles de ma grand-mère, qui me font des adieux du haut de son palier. Les mains d'Aimée Césaire qui m'ont hypnotisé quand elles ont saisi la plume et l'encrier. Et puis m'ont rendu la dignité avec le retour au pays natal de son cahier. Les mains de Martin, de Malcolm, de Toussaint, sans oublier le poing de Tommy Smith, de France Fanon, de Raphaël Confiant, de Rosa Parks et d'Angela Davis. Les mains mutilées, empalées, empilées, gangrénées, à genoux, sans raison, enchaînées, qui ont tenu bon même à bout et dominé. Je suis fier d'avoir les mêmes que celles de mes aînés.
Imaginez ce spectacle extraordinaire. 10 volcans à la fois crachent leur lave pour faire la part d'aînés. C'est fantastique, quelle licence prodigieuse. Ça vous bute les bimbos.
Colère cosmique.
C'est une colère cosmique et tournée la colère créatrice. Elle est créatrice. Ah, nous sommes loin de cette dérive sous la mer endormie, c'est beaucoup plus que ça. C'est des termes de colère, c'est des termes exaspérés, c'est des termes de crash qui vomissent et qui vomissent la vie. Et c'est de cela que nous devons être dignes. Cette parcelle créatrice, il faut la recueillir. Et il faut continuer l'œuvre première. Il faut la continuer. Et non pas s'endormir, une sorte d'acceptation et de résignation.
Eh bien, voilà, donc Zone Libre, Kazé et Amé qui seront le 7 mai au 6x4. On les a présentés tout à l'heure dans l'agenda, qui, je le précise, est une sélection de dates. Voilà, bien sûr, c'est pas exhaustif. Si vous voulez retrouver toutes ces dates et tout ce qui sera programmé au mois de mai, il suffit d'aller sur le site de Transistor, transistor.org, et puis bien sûr, consulter aussi l'agenda Bouger en Mayenne, qui est très exhaustif par rapport à tout ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent. Voilà, donc on va clôturer cette émission avec La Vieillerie à Jackie, qui est notre dernière rubrique, qui, je le rappelle, est en fait une rubrique consacrée à un vieux disque qu'on ressort des placards, qu'on avait peut-être oublié, qu'on trouve intéressant de dépoussiérer, de vous faire réécouter. La sélection d'aujourd'hui, c'est un morceau des Shooters. Alors les Shooters, pour les moins de 20 ans ou même les moins de 40 ans peut-être, j'en sais rien. C'est un groupe en fait lavallois qui officiait dans les années 60-70 dans un registre qui est celui du, on va dire, du rock, jazz rock, musique rock psychédélique. Un groupe qui a eu beaucoup d'influence et qui a vraiment marqué ces années-là en Mayenne et puis dans tout l'Ouest, puisque c'est un groupe qui tournait beaucoup. Et qui, c'est la particularité aussi de ces années-là, qui se produisait essentiellement dans les balles, parce qu'il faut savoir, on expliquera tout ça dans le cadre d'un projet qui s'appelle Rocking Laval, que dans ces années-là, en fait, c'était très difficile de jouer dans les lieux de concert, les festivals qui existaient très peu, en fait, et que le bal était un lieu de découverte et de production pour beaucoup de groupes de rock. Et les Shooters ont enregistré un 45 tours, même plusieurs 45 tours, dont le morceau qu'on écoutera en fin d'émission est tiré. Les Shooters, c'est aussi un groupe dans lequel officiait Paul Fort, un pianiste aussi aujourd'hui qui plutôt catégorisé dans le registre du jazz, qui a été accueilli, que toi tu connais bien, Jeff, aussi, ce pianiste.
Oui, je le connais bien parce que j'ai eu la chance de l'avoir aussi comme prof dans les ateliers de jazz. Ouais, ouais. Comme partenaire des fois pour faire un peu de musique aussi avec lui. Et puis il a marqué beaucoup de gens en Mayenne, hein, parce qu'il y a beaucoup de jazzman ou d'élèves qui sont passés chez lui et puis qui sont même devenus des musiciens de professionnels après, quoi. Donc au niveau pédagogique et tout, au niveau du jazz, c'est quelqu'un qui a apporté énormément pour le jazz en Mayenne, quoi. Ouais.
Alors c'est en plus d'autant plus intéressant et pertinent de passer ce morceau là aujourd'hui que Paul a eu quelques ennuis de santé dernièrement, et donc c'est vraiment aussi un hommage qu'on lui fait en passant ce morceau. Je parlais tout à l'heure du projet Rocking Laval, qui est un projet qui s'intéresse à l'histoire du rock en Mayenne et surtout à Laval, puis vu le nom. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler prochainement dans d'autres émissions. Et les Shooters, bien sûr, seront à l'honneur dans le cadre de ce projet-là. On écoute donc le morceau Picnic, qui est tiré du deuxième 45 tours du groupe. Voilà, c'est un morceau, vous allez voir, qui justement est vraiment dans les ambiances jazz-rock, le rock des années 70. Et voilà, c'est parfait pour se quitter et vous dire à bientôt, au revoir. Merci de nous avoir tous écoutés. Merci encore une fois, Jeff, de nous avoir fait l'honneur de participer à cette émission. Et on se retrouve tous, toute l'équipe et puis tous les auditeurs, bien sûr, le 28 mai avec Archimède pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous.